Youf. C'est quand Michael Jackson était encore noir.
The Cure.
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour. Les Canu Info du mercredi.
Vous êtes bien dans les Canu Info. On est mercredi 30 septembre et on est presque tous autour de la table. On a aujourd'hui des invités pour la marche des solidarités. On reparlera tout à l'heure, donc ce sera plutôt en deuxième partie d'émission. Et on commencera plutôt par quelques brèves. On aura aussi un sujet sur Kamel Daoudi, qui est le plus vieil assigné à résidence de France et qui risque la prison pour 30 minutes de retard. Ça, c'est Julien qui nous en parlera. Bonjour Julien.
Bonjour. Et alors moi j'ai pas le fil sous les yeux, donc je vais pas pouvoir continuer à faire
donc,
le fil.
On parlera aussi, enfin Judic reviendra nous faire sa chronique, enfin Laurent Delabousse reviendra nous faire sa chronique. On fera ensuite une pause musicale avant de revenir sur le Faut que ça sache avec cette interview pour les marches des solidarités et avec un sujet sur les 6 navires humanitaires qui sont bloqués par les autorités italiennes avant de faire un petit rappel agenda.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Alors, avant tout, on va parler du budget de l'armée qui grimpe encore, puisque en 2021, il prend 1,7 milliard d'euros d'augmentation, donc de budget en plus, pour atteindre plus de 39 milliards au total. Le budget de la défense atteint donc un niveau record et progresse de 4,5% par rapport aux crédits mobilisés en 2020 et 2019. Ouais, waouh. En 4 ans, il aura augmenté de 22%. Alors Florence Parly, qui est ministre de la Défense, annonce fièrement « Nous serons le premier recruteur de France en 2021 ». Il y a de quoi être fier. Hein. Effectivement, le recrutement, c'est important. Pas mal de personnes sont en train de perdre leur emploi avec des vagues de licenciements de tous bords. On va pas revenir dessus. Mais c'est assez étonnant de constater qu'après une pandémie dans laquelle on s'embourbe encore pas mal, le besoin d'emploi se fasse ressentir avant tout dans l'armée et pas, par exemple, au hasard dans les hôpitaux ou les écoles. Et ce,
quelle drôle d'idée.
Oui, c'est une drôle d'idée. Ouais. Alors pourtant, l'armée a prouvé encore une fois son inutilité. Hein. Il n'y a pas été question qu'elle soit un outil pour organiser des sessions de tests au coronavirus ou pour construire un hôpital en quatrième vitesse. Si, alors tout de même, il y a eu 40 militaires mobilisés depuis hier en Guadeloupe pour prêter main forte à l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Et c'est à peu près tout l'apport de l'armée pour la lutte contre le coronavirus.
Sachant que plus durablement, on ferait mieux de construire un hôpital à Pointe-à-Pitre vu l'état des hôpitaux là-bas. Quoi.
Voilà. Alors, en revanche, l'armée, là où elle est absolument nécessaire, c'est au plan de soutien aéronautique. Comment on peut soutenir l'industrie aéronautique si on ne leur commande pas des rafales? Alors, il y a des commandes qui ont été déjà prévues, mais qui sont avancées grâce à cette enveloppe fantastique. À ce titre, 3 Airbus ravitailleurs, 8 hélicoptères Caracal et des systèmes de drones pour la marine seront par exemple commandés aux industriels. Et toujours selon des expressions du ministre de la Défense, en fait, l'armée est avant tout, je cite, « une machine à dynamiser l'économie française ». Encore une fois, voilà, vu les demandes de soignants en matière de lits, de matériel, de personnel, on se dit que la santé ferait aussi une très belle machine à dynamiser l'économie. Mais non, non, non.
Canu Info. Du mercredi.
Ah, et tu parlais d'aéronautique, alors du coup on va faire un tour à Toulouse, mais pas pour parler d'aéronautique, mais pour parler de justice somme toute assez sévère. À Toulouse, il y a 7 personnes qui ont pris 2 mois de prison ferme avec mandat dépôt pour avoir collé des affiches et tagué des pochoirs dans les rues toulousaines. Alors certes, les affiches et tags étaient plutôt hostiles à la police et à la magistrature, et autant dire que leur arrestation à leur jugement, ils se sont fait arrêter, puger par des personnes manquant clairement de discernement et de sens de l'humour, puisque, je cite, parmi les textes des affiches et des tags, il y avait « Squat ton préfet, la police tue, confinons-la, le pire de virus, c'est l'autorité ». Bref, tout ça ne valait pas 2 mois ferme, tout au plus une simple amende, voire un rappel à la loi. À l'annonce du verdict, l'Assemblée, venue les soutenir, a fortement protesté dans la salle.
Canu Info. Du mercredi.
Et alors, Barbara Pompili, qui est la ministre de la Transition écologique, a annoncé hier une bonne nouvelle, en fait, une série de mesures sur la faune sauvage détenue en captivité. Elle a annoncé la fin progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants et dans les spectacles avec orques et dauphins, et aussi l'interdiction sous 5 ans des élevages de visons. Ça fait 1 an que ces annonces sont attendues, après des consultations sur ces sujets-là avec les associations et professionnels concernés. C'était lancé au printemps 2019 et voilà, il était temps d'avoir une conclusion. Ne nous réjouissons pas trop vite, on ne sait pas encore quelle forme cela prendra, un décret, peut-être une loi ou un arrêté. En tout cas, la fin progressive a été fixée à 2 ans pour la fin de l'activité des 4 orques et des dauphins. Répartis dans les différents parcs d'attractions français. Concernant les cirques, la ministre annonce que c'est encore flou, mais ce serait plutôt 5 ans. Les chiffres concernant les animaux encore exploités à ces fins sont assez imprécis, mais ils sont estimés à environ 250 animaux pour les cirques, soit 80 cirques itinérants en France, et 3 parcs delphinarium et 4 élevages de visons encore en activité. Oui, il faut savoir qu'il y a encore des élevages de visons en activité en France.
Parce que c'est hyper important d'avoir un manteau aux visons dans la vie.
Mais oui, tout à fait. Alors, concernant l'avenir des visons en question et des autres animaux sauvages, et puis aussi des soigneurs, éleveurs, dresseurs qui en dépendent, rien de concret non plus, seulement une enveloppe de 8 millions d'euros. On ne sait pas trop comment les choses s'organiseront. Et cette annonce, elle survient alors qu'hier, l'association de défense des animaux L214 a diffusé une nouvelle vidéo tournée dans un élevage de lapins près de Ploërmel dans le Morbihan. Ce qu'on y voit est assez parlant, 40 000 lapins enfermés dans de petites cages au sol grillagé, certains n'ont pas accès à l'air libre, et d'après les documents de suivi de mortalité, près de 300 lapins meurent chaque semaine dans cet élevage, alors de mort, j'allais dire naturelle, pas du tout, mais pas prévue en tout cas. Et en fait, c'est tout à fait représentatif des élevages français de lapins, d'après le 214, puisqu'ils sont 99% à imposer les mêmes conditions de vie à leurs lapins, à afficher le même taux de mortalité. Donc, c'est pas du tout un élevage qui serait drastiquement terrible. Voilà, l'éleveur qui témoigne dans Ouest France, il déclare qu'il respecte la loi. Ce qui est vrai, puisqu'il n'y a pas de réglementation spécifique pour les élevages de lapins, comme ça peut être le cas, par exemple, pour les poules pondeuses. Alors, la seule protection légale, en fait, elle vient de l'Union européenne, une directive de 1998 qui donne un cadre général à l'élevage des animaux et qui déclare que les conditions d'élevage doivent respecter les besoins sociaux et biologiques des animaux. Bon, bah, avec ça, c'est une directive assez floue et assez inconsistante, ce qui... avec laquelle on comprend bien qu'il y a très peu de condamnations. Alors, d'où la sortie de cette vidéo, justement, puisqu'il n'y a pas de loi très claire. Et demain doit être discutée, justement, en commission des affaires économiques et ensuite à l'Assemblée nationale, une proposition de loi pour sortir de l'élevage intensif et de l'élevage en cage d'ici à 2040. Alors c'est un peu gros comme ça, c'est difficile d'imaginer qu'elle sera adoptée telle quelle, mais enfin pourquoi pas.
Canu Info.
Et alors, eh bien, on va parler de Kamel Daoudi, qui est le plus vieil assigné à résidence de France et qui risque de finir en prison pour être arrivé en retard de 30 minutes à son pointage à la gendarmerie. Alors, pour rappel, en 2001, il est accusé d'avoir fomenté un attentat contre l'ambassade américaine en France suite à un séjour qu'il aurait fait en Afghanistan. Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs avec entreprise terroriste. Il est d'abord condamné à 8 ans de prison, puis sa peine est revue à la baisse en cour d'appel, qu'il le condamne à 6 ans. En 2008, il sort sa peine. Il sort de prison après avoir purgé sa peine, donc. Mais en plus de sa peine, comme il est d'origine algérienne, il est arrivé en France à l'âge de 5 ans. Une interdiction définitive du territoire français est prononcée à son encontre, ainsi qu'une procédure pour le déchoir de la nationalité française. Sauf que là-dessus, la CEDH se saisit du dossier, interdit son expulsion car il risque de subir de graves sévices de la part du gouvernement algérien du fait de sa condamnation pour terrorisme. Le ministère de l'Intérieur se saisit alors de l'affaire et le condamne à une assignation à résidence. Cela fait maintenant 12 ans que ça dure. En plus de son assignation, il doit pointer 3 fois par jour à la gendarmerie de la ville où il est assigné 9h15, 17h15... 15h15, enfin bref, tout ça varie un peu. Avant c'était 4 fois, à des moments c'est 2 fois, puis ça repasse à 3. Alors je dis la ville où il est assigné parce que son lieu d'assignation est décrété par le ministère de l'Intérieur, c'est pas lui qui décide de là où il habite. Depuis ses 12 ans, il a été contraint de depuis ses 12 ans qu'il est assigné à résidence, il a été contraint de déménager 7 fois un peu partout en France, que ce soit dans le centre, dans l'est, dans l'ouest, dans le sud-ouest. À chaque fois, il est prévenu une demi-heure avant son transfert de ville. Il vit actuellement à Aurillac, dans un modeste appartement sans meubles, car sachant qu'il peut être transféré d'un jour à l'autre, et en général donc il la prend une demi-heure avant, il n'a pas le temps de prendre ses affaires, et de toute façon, le camion ou l'estafette qui lui sert pour le déménager, ce qui ne rentre pas, en gros, il n'a pas le droit de le prendre, quoi. Le tout en étant éloigné de sa femme et de ses enfants. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que Kamel Daoudi a été condamné il y a un peu moins de 20 ans pour un projet supposé qu'il a toujours nié, mais quand bien même, en tout cas, il a été condamné 6 ans pour ça, il a purgé sa peine, il a fait ce dont on lui demandait, et pour finir, cette assignation à résidence qui dure depuis 12 ans n'a aucune fin juridique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on va lui dire, en fait, t'es assigné à résidence pour 24 ans, non, il en sait rien, et les conditions de cette assignation ne sont que le fait du prince, c'est-à-dire que si un jour le ministère de l'Intérieur décide de passer de 3 pointages à 5 par jour, rien ne l'en empêche. C'est-à-dire que il peut pas appeler son avocat et dire bon, en fait là j'ai un problème, est-ce que tu peux faire un recours? Il y a absolument rien, il y a rien qui oblige pour le moment le ministère de l'Intérieur de mettre fin à cette assignation. Il y a rien, toutes les voies légales, enfin il a aucune voie légale pour se sortir de ça. Et donc, malgré ces 12 années, et ces 12 longues années, et malgré ces plus de 12 000 pointages qu'il a effectués, vendredi dernier, alors qu'il finissait de préparer des falafels dans le bar associatif où il bosse bénévolement pour une soirée karaoké, auquel il ne pourra pas participer, bien sûr, parce qu'il doit être rentré chez lui à 21h30 au plus tard, les gendarmes se pointent à 21h30 au bar pour l'arrêter et le placer en garde à vue car il ne s'était pas présenté à 21h à la gendarmerie, l'heure de son pointage, quoi. Il a passé 28 heures en garde à vue, son domicile a été perquisitionné, le parquet a requis et obtenu son placement en détention dans l'attente d'une comparution immédiate différée qui se tiendra le mardi 6 octobre, c'est-à-dire mardi prochain. Il risque un an de prison. Alors, sachant quand même que vous imaginez bien que c'est pas comme si à son domicile ils avaient pu trouver grand chose. C'est-à-dire qu'ils ont rien de rien sur ce retard de 30 minutes. C'est pas un retard de 30 minutes qui explique qu'il était en train de fomenter on sait pas quel plan. Ils ont rien du tout, juste 30 minutes de retard. Il risque donc un an pour ces 30 minutes. Il est actuellement incarcéré à la prison d'Aurillac et il a décidé d'entamer une grève de la faim et de la soif.
Radio Canu.
Canu Info. Du mercredi.
Et on va s'écouter la petite chronique de Laurent Delabouze.
Bonsoir. Alors que les cafés et les restaurants ferment parce que le Covid remet le couvert, alors qu'il n'y a toujours pas plus de respirateurs, de personnel hospitalier ou de lits en réanimation, cette semaine, la sphère médiatico-politique a décidé de s'attaquer aux choses sérieuses. En effet, il ne faut pas avoir peur de prendre à bras le corps les vrais sujets, ceux qui sont indispensables à la survie de notre société. Ce qui a donc cette semaine agité la politique française, c'est comment on doit s'habiller pour aller au lycée. Bon, mais quand on parle de la manière de se vêtir pour les écoliers, ce qui est important pour les gouvernements, dont je le rappelle, une des priorités était d'agir contre les violences faites aux femmes, ce qui est important pour lui donc, c'est de déterminer si les filles ne s'habillent pas de manière trop provocante.
Eh ouais, t'as vu ça Marcel ? Y'a le censeur qui a poussé une gueulante à cause de la Georgette qui s'est pointée avec une mini-jupe. Mini-jupe, voilà France ! Sûr que le René Coty va pas laisser passer ça. Sinon, je te bigophone pour dimanche. Au cinématographe, il joue un film avec Errol Flynn. Arrête, laisse tomber ta galette de Maurice Chevalier, le gramophone n'existe plus. Eh oui, aussi incroyable que ça puisse paraître, on est bien en 2020. Et c'est suite à un mouvement de lycéennes et lycéens qui revendiquaient de pouvoir s'habiller comme ils voulaient que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a tranché. À l'école, il faut venir habiller d'une façon républicaine. Ça au moins, c'est clair. Comme dirait Renaud dans sa chanson, où c'est que j'ai mis mon flingue, ta République, moi je la... Depuis cette phrase, en tout cas, les réactions pleuvent. Notamment dans Marianne. Vous savez, ce torchon réactionnaire qui essaie de faire passer les valeurs de l'extrême droite arriérée comme faisant partie intégrante de la mentalité mainstream et raisonnable de la société française. Ce magazine, qui donne envie d'arracher ses pages pour les fourrer dans la gueule à Benalla pour aider le Covid à bien faire son travail, eh bien ce magazine a publié hier un sondage pour savoir, d'après les Français, quels sont les vêtements à interdire aux filles dans les lycées. Quant à sa directrice de rédaction, Natacha Polony, elle s'est fendue d'une tribune dont voici la phrase emblématique. L'école n'est pas un lieu d'expression des libertés, mais un lieu d'apprentissage des libertés. Ça, c'est beau. Comme en prison. On t'apprend ce qu'est la liberté, mais t'as pas le droit de l'utiliser. Du coup, à l'école, apparemment, on apprend ce qu'est la liberté, mais on n'a pas le droit de l'expérimenter. Par exemple, c'est pareil pour les cours d'anglais. On apprend que pour parler cette langue, on a besoin de mots qui sont pas les mêmes que ceux de la langue française, mais par contre, on n'a pas le droit de les utiliser. Bon, ok, merci pour ce raisonnement. Mais si tu te l'appliquais à toi-même, hein, Natacha ? Apprends bien ce qu'est la liberté d'expression, mais s'il te plaît, arrête de l'utiliser. On aura donc remarqué, cette semaine, qu'une bonne partie des médias, et surtout du gouvernement, souhaite faire passer l'idée que la pudeur est un facteur indispensable d'intégration et de réussite au sein de notre société. Benjamin Griveaux a été nommé, encore une fois, responsable d'une mission parlementaire. C'est la deuxième fois qu'on lui trouve un poste au sommet de l'État depuis qu'il a fini son challenge avec Twitter. Ouais, qui c'est qui va le plus montrer son petit oiseau sur Internet ? Eh oui, la première fois, il y a quelques mois, il avait été nommé, ça ne s'invente pas, responsable de la bite. Pas la sienne, vous aviez compris, parce qu'il avait plutôt du mal à la gérer, celle-là. Non, la bite, base industrielle et technique, de défense. Mais le député français est taquin, et lors d'une de ses premières prises de parole dans l'hémicycle, un député LR qui intervenait avant lui finissait sa prise de parole comme ça. Benjamin Griveaux doit intervenir, je me demande bien ce qu'il a à nous montrer. Bref, l'exécutif a finalement décidé de changer le nom de la base industrielle et technique de défense en base industrielle de la souveraineté de la défense. Contrairement à ce que dit Blanquer, donc, exposer son anatomie n'est pas forcément mauvais pour la carrière. La différence pour Blanquer et le gouvernement, c'est peut-être que Griveaux n'est pas une femme. Et que, probablement pour eux, c'est les femmes qui doivent se couvrir. Oulala, mais attention ! Se couvrir, oui, mais pas n'importe comment. En témoigne ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Il s'y tenait une audition pour une commission d'enquête sur les effets de la crise du Covid sur la jeunesse. Trois élus LR et une élue En Marche se sont cassés de la réunion avec perte et fracas. Il et elle n'ont pas quitté les lieux en hurlant « On démissionne, tout le pouvoir au peuple et vive l'anarchie !» Non, pour ça il leur faudra un sacré coup de pied au cul. Ils sont partis pour protester contre la présence de la vice-présidente de l'UNEF qui portait un voile. Les cheveux cachés par un carré de tissu. Les élus, qui avaient tous un masque, n'ont pas supporté ça. Peu de temps après, Ségolène Royal, qui passait à la télé pour une petite interview, n'a pas hésité à donner son point de vue sur cette affaire. De point entre guillemets, quand j'ai vu ces images, j'ai été estomaqué. J'aurais probablement, moi aussi, quitté la salle. Et elle continue. Cette jeune fille fait du militantisme, et on ne se sert pas de la République pour faire du militantisme. Ah, Ségolène Royal, la probité faite femme. Elle qui avait déclaré à propos de la République, on doit servir et ne pas se servir. Et la dernière fois qu'elle a servi la République, la Royale, c'était en tant qu'ambassadrice des pôles. Malheureusement, elle n'avait pas pu mener son mandat à son terme, puisqu'elle avait été suspendue à cause d'une enquête sur l'utilisation des fonds publics qui lui étaient alloués pour sa mission. Sûrement un excès de zèle de l'administration. Elle n'avait utilisé que 150 000 euros en frais de représentation. Et si elle n'avait pas pu assister aux réunions du Conseil de l'Arctique, c'est sûrement parce que ça tombait en même temps que la promo de son bouquin. Ou alors, c'était peut-être au moment où ses collaborateurs, payés par le ministère, l'emmenaient aux eaux. Ou alors, c'était parce qu'elle n'avait trouvé personne pour la conduire, puisque ses mêmes collaborateurs croulaient sur le travail à la fondation personnelle de Ségolène Royal. Bref, l'important, ce n'est pas la corruption. Tous les gouvernements sont corrompus. L'important, c'est la liberté. Si elle est bafouée pour les femmes dans leur manière de s'habiller, elle l'est sur bien d'autres sujets. Utilisons-la au maximum pour éviter qu'elle ne s'use.
Et on va se faire une petite pause musicale juste après. Et juste après, on retrouvera la rubrique « Il faut que ça sache ». Et on commencera cette rubrique par l'interview des personnes qui font la marche des solidarités.
Merci.
Alors c'était 1, 2, 3 soleil, Rachid Taha, Khaled et Faudel. Et on enchaîne avec la chronique Oxa Sache.
Écoutez,
à tout moment, il peut venir te prendre pour les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info contre la machine.
Contre la machine à expulsion.
Et on reçoit Najeh, Mohamed et Habiba. Bonjour.
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 Vous faites partie du collectif des sans-papiers 69, enfin en tout cas de la marche des solidarités. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre implication dans cette dans ce collectif ou dans,
oui,
dans cette marche?
Le CSP 69 est né de cadre de mobilisation pour les gens qui ont une situation régulière. Nous avons décidé de créer ce collectif afin de revendiquer nos droits.
Ok, et du coup c'est une marche, là la marche des solidarités qui est partie de Marseille le 19 septembre et qui arrive à Paris le 17 octobre, ouais,
oui.
C'est ça.
Mmh.
C'est une marche qui a été conçue plutôt comme une continuité de d'autres actions. Est-ce que vous pouvez revenir sur les deux premières?
Oui, on était déjà représenté dans la première manifestation le 30 mai. Des milliers de sans-papiers ont manifesté et la suivre une deuxième le 20 juin. Mais toujours aucune réponse. Finalement, nous avons décidé de faire une marche de solidarité qui a déjà commencé le 19 septembre jusqu'à le 17 octobre à Paris.
Ok, il y a Najeh, je crois que tu viens de Marseille, du coup.
Oui, j'étais participé le premier jour de la marche à Marseille. J'étais le 17 là-bas parce qu'il y a une conférence de la presse. Et le 18, on rejoint tous les collectifs de Paris, de Paris, de Lyon et tout. Et on a fait beaucoup des réunions. Et du coup, le 19 septembre, c'est le premier jour de la marche. On a fait un rassemblement à côté de la préfecture avec vraiment, c'est très touchant parce que pendant toute la marche à Marseille, dès qu'on marche à la rue, il y a des gens qui nous rejoignent du café, de la rue et tout. Et en même temps, on vend les t-shirts. Et vraiment, c'est très touchant aussi. On a une grande ambiance avec HK. On fait des musiques. Il y a beaucoup des Africains, des Algériens, de l'Égypte, des Marocains, des Tunisiens, de toutes les nationalités. Et elle est très, très, très... vraiment, le premier jour, c'est... il nous reflète la réussite de notre marche. Mmh. Il nous pousse à ne pas reculer. Non, on avance. Et on finit notre marche c'est le 19 avec un rassemblement vraiment très touchant à côté de l'écran. Chaque instant, on fait des porte-parole. Et surtout à côté des crânes, on a fait beaucoup de...
Comment ça s'est passé justement à côté du crâne? Enfin, est-ce que vous avez pu échanger?
Vraiment, c'est la première fois que j'étais dans une manif, un rassemblement de ces... Surtout le nombre de gens et tout. Et c'est très touchant, surtout les paroles sont très... Vraiment, nous sommes tous en pleurs. Parce que tu vois, dès qu'on arrive à côté de Kra, il y a la police, Et si tu vois, c'est pas un prison, c'est pur qu'un prison. quand tu vois les grillages et les polices, tu penses qu'il y a des animaux sauvages là-dedans. C'est vraiment, c'est très contre l'humanité, quoi. C'est surtout, je peux parler un peu pour nous de la Tunisie. Il y a des gens là-bas parce que le consulat, il a signé. Il a accepté d'exclure les gens qui sont au CRA, oui. Et malgré qu'ils ont fait un grève collectif de la faim, mais aucune réaction, ni du gouvernement, ni de l'État, ni du président, ni rien. Vraiment, c'est horrible.
Et alors du coup, vous, pour essayer de bousculer un peu les choses, vous avez décidé d'organiser cette marche. Et pourquoi vous avez choisi ce mode d'action spécifiquement, enfin une marche comme ça qui va... Alors au début c'était plutôt Marseille-Paris, puis finalement il y a pas mal de villes qui se sont rajoutées au projet pour converger vers Paris.
Parce pourquoi que ce choix-là, ouais. L'union fait la force. Il faut qu'on être tous... Et aussi, historiquement, on voit que c'est une solution vraiment que nous, en espérant, donne des résultats.
Mm-hmm. On a décidé de se rassembler comme ça parce que c'est tous les trottoirs français, les gens qui ont cette régulière et pour se regrouper, c'est le seul moyen de faire ce marche pour qu'on soit le 17 octobre, le même point où il y aura beaucoup de monde.
Aussi, j'ajoute avec mon collègue Mohamed, les sans-papiers ont été aux premières lignes pendant la crise de Covid. Et il faut qu'on profite de cette situation. Parce que si on a toujours dans une mal situation, mais avec le Covid, c'est plus notre situation, elle est vraiment on ne demande rien, on demande que
accès de droit, oui, tout simplement, ouais.
On veut de la justice, c'est tout. On veut de la justice, on veut de l'égalité. On ne demande pas quelque chose interhumanité, quoi. Surtout qui a été promise par les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité. C'est normalement, c'est sans demander ça, ouais. Aussi
Toi pour tous, régularisation sans exception pour tous les sans-papiers et pour notre identité aussi. C'est le seul moyen pour envoyer notre demande.
Par exemple, il y a des gens, par exemple, moi, je ne parle pas sur moi, mais il y a des gens qui sont depuis 14 ans ici en France. Il travaille, Mohamed aussi, il a depuis 5 ans, mais
toujours
pas de papier.
Oui. Malgré qu'il a des familles ici, ouais. Et tout. On parle collectivement, nous, tant qu'on est membre du collectif du sans-papiers, on demande que la justice, la régularisation de notre situation sans exception. Parce que si on voit que l'économie de la France, vraiment, c'est nous, les sans-papiers, qui font de cette économie. Sans nous, je crois qu'il va faire un...
Surtout avec cette crise sanitaire depuis l'épidémie, il n'y a aucune réaction de la part du gouvernement sur les gens qui n'ont pas de papiers. Et voilà, on était vraiment touchés pour ce Covid, on a pris le risque, on ne peut pas sortir de chez nous, on n'a pas des aides, rien du tout. Alors, ça nous donne le courage pour sortir, pour se rassembler, pour envoyer notre voix au gouvernement aussi.
Oui, parce que nous, il faut qu'on travaille. Les gens qui ont les papiers, il y a de remboursement, ils peuvent rester à la maison sans travailler, mais ils vivent quand même. Mais nous, il faut qu'on travaille pour vivre. On a des familles, on a des enfants, on a des vieux, on a des femmes, on a beaucoup de types de familles. On souffre, quoi. On souffre parce que c'est... surtout avec le Covid.
Et du coup, cette marche, elle est partie... toi, tu parlais de Marseille. Les autres villes, est-ce que vous avez des échos de s'il y a eu beaucoup, si ça a été beaucoup suivi, combien il y a eu de personnes? D'ailleurs, à Marseille, il y a eu combien de personnes?
Oui, Mohamed, t'as dit. Pour le moment, on va rejoindre le marcheur du Sud demain, le premier.
Du Sud, il y a 55 marcheurs, et de Grenoble, il y a 27 marcheurs, il y a de Nice, 7 marcheurs aussi, de Paris, il y a 11. En tout, ils sont 96 personnes qui vont arriver dans un jour différent, le jeudi et le vendredi.
Et on va rejoindre le marcheur du Sud demain, le 1er octobre. On a un rassemblement à Vinicieux à 17h.
Place de Minguette.
Place de Minguette, oui. Et le 2, le vendredi, on va rejoindre le marcheur de Grenoble.
C'est de Grenoble, le centre de rétention à Saint-Exupéry.
On va faire un rassemblement à côté de Cra.
À Saint-Exupéry, oui. À 16h. Hein,
je crois. À 16h, oui. Et le 3, on a beaucoup aussi des membres des collectifs de Paris, de Marseille, de toute la France. Ils vont nous rejoindre à la grande manif à 14h. On se rassemble à 14h30 et la manif, ça commence à 15h30.
C'est le samedi.
Oui, à Bellecour. Mmh. C'est le samedi. Du coup, moi, de ma place, je fais un appel pour tous les gens pour nous rejoindre. Parce que c'est la seule occasion, c'est si on n'a pas sorti ce samedi-là, et on battre pour notre régularisation et notre situation pour régler, on ne trouve pas une autre fois une solution comme ça. Surtout dans ces conditions de l'éco-COVID-19.
Parce que, je vais rajouter, parce que les gens ont une situation régulière, on a différents niveaux, il y a plein de gens qui ont des médecins, des ingénieurs, des bâtiments, on peut construire l'avenir de France, il y a vraiment des catégories, des personnes qui ont beaucoup de capacités pour réussir ici en France, et voilà pourquoi on est venu là, soit quelle que soit la nationalité, c'est pour un objectif.
Oui, nous ne sommes pas dangereux, mais nous sommes en danger.
Voilà.
On a beaucoup de capacités, on a des profs, on a des médecins, comme il dit Mohamed, on a des ingénieurs. On peut faire le plus pour la France. C'est pas... parce que moi, je ne comprends pas... le gouvernement ne fait pas même une réaction. On demande l'autorisation de travail. Ou bien l'autorisation de délouer pour vivre sous un toit.
Il y a plein de gens qui se trouvent sur la rue avec cette crise. C'est vraiment dangereux.
Le moindre de choses.
Et du coup, le prochain rendez-vous pour vous voir ici, parce que malheureusement, en tout cas notre radio qui est à Lyon, vous disiez que vous étiez à Vénissieux, c'est demain si des gens veulent venir voir demain, où ça, à Vénissieux?
À 17h,
Place des Minguettes.
Oui. Et lieu sacrément symbolique, les Minguettes, parce que c'était de là qu'est partie en 83 la marche pour l'égalité et contre le racisme.
Voilà. Ouais, oui. D'où la symbolique de la marche qui est quand même assez forte, effectivement.
Même le 17 octobre, c'est l'arrivage à Paris, c'est symbolique aussi.
Alors, on n'en a pas parlé, mais effectivement, avec l'arrivée à l'Élysée, il y a aussi une lettre ouverte à Macron qui est parue sur Internet, qui est ouverte, quoi. Et qu'est-ce que vous attendez exactement de cette arrivée à Paris? Comment vous voyez les choses?
Moi, je rêve d'une grande manif nationale. Vraiment pour faire la pression sur l'État. Et on trouve c'est pas une solution évidemment immédiatement, mais même il pensait pour faire quelque chose pour nous.
On attend une manifestation inoubliable. Ça rentre dans notre historique.
Oui.
Du coup, avant... Oui, pardon.
même si on n'a pas réalisé de résultats, mais on a même on a participé dans une chose vraiment elle a un pas dans l'histoire.
En tout cas, on peut dire que c'est quand même super courageux et courageuse de votre part pour des gens qui sont considérés de la part des autorités comme illégaux, en tout cas n'ayant pas de papier, se mettre au devant comme ça par avec une marche et aller au devant des problèmes. On peut dire que ça demande un sacré courage que vous avez.
Ouais, bravo.
Parce que c'est la personnalité avant tout.
Et moi, je fais des appels pour les gens que, pour nous rejoindre parce que c'est un grand travail. On a besoin beaucoup d'aide. On travaille depuis le 30 mai. Vraiment, jour et nuit, on travaille, on fait des réunions. À côté, en parallèle, notre vie normale, mais on travaille, quoi. Mm. Et j'appelle tous les gens. Nous rejoindre, surtout les Taurois, Bellecour. Aussi, nous sommes très ravis parce que les Améries et les associations, ils sont avec nous. Ils sont avec nous.
Les surtout l'association. Les syndicats.
Les solidaires, oui. Je remercie toutes les associations qui sont du soutien, aussi du soutien individuel, quoi, avec nous. Vraiment, c'est. Il nous pousse pour avancer. Ouais. Oui.
Alors du coup, pour vous rejoindre demain à Vénissieux à 17h, place des Minguettes, ou vendredi, devant le CRA à Lyon-Saint-Exupéry à 16h, et puis samedi, la grande manif à Bellecour, 14h30.
Oui, ouais. Voilà. Et notre départ serait le 4 octobre, départ du. Voilà. On va être à Villefranche. Notre étape, c'est Belleville, mais on va aller par train à Villefranche. Après, Belleville, Masson, Chalon, Bonne et le 8 à Dijon.
Voilà, beau programme. Merci.
Et où est-ce que il y a un site internet ou des réseaux sociaux où des gens pourraient vous suivre, ce qui n'empêcherait pas les gens de venir au rendez-vous et aux manifs, parce que le plus important c'est ça, mais si jamais il y a des gens qui veulent se tenir au courant sur internet, est-ce que c'est aussi possible?
Oui, on a une page officielle
Facebook,
oui, on a une page collectif des sans-papiers de Lyon. Aussi, on a l'email csp69lyon@gmail.com et on a des groupes aussi sur Facebook.
Ok.
Et moi, je suis un membre dans l'association. On a fait ces demandes-là, on a poussé pour faire une association nationale. Elle s'appelle Ensemble pour notre régularisation sans exception. Elle est à Paris. Mais on va faire une branche ici à Lyon. Je suis un membre officiel de cette association.
Toutes les villes de France.
Ouais. Oui, chaque Grenoble, Marseille, tous, on a un membre officiel pour. On fait ouvre une branche pour cette association.
S'organiser, se réunir.
Super.
Oui. Il faut continuer même cette marche ou bien cette manif, mais on va continuer jusqu'au bout.
Et du coup, pour vous faire plaisir,
on lâche rien.
Belle transition.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
Et, De quoi on va parler ? Eh bien, on va parler des bateaux humanitaires qui sont censés, je dis censés, parce qu'ils sont actuellement bloqués par les autorités italiennes, en tout cas pour la majorité d'entre eux, qui sont censés protéger les gens qui tentent la traversée en Méditerranée. Voilà, en tout cas, depuis le 30 septembre, plus aucun bateau ne circule dans la SAR Zone. Alors, la SAR Zone, on a beaucoup parlé sur cette antenne, c'est la Search and Rescue Zone, qui est la zone où passent les canaux qui tentent de venir en Europe. Donc 4 d'entre eux sur les 6 sont retenus par les autorités italiennes. Alors on a pour des motifs, vous allez voir, à chaque fois quand même assez pittoresque. On a l'Océan Viking qui est bloqué au port sicilien de Porto Empedocle. Depuis le 22 juillet, il est retenu pour une période indéterminée pour des, je cite, manquements de nature à compromettre non seulement la sécurité des navires et de l'équipage, mais aussi des personnes qui ont été ou qui pourraient être récupérées à bord. Donc c'est-à-dire que les autorités italiennes n'ont rien trouvé de mieux que de reprocher à l'Ocean Viking de ne pas suffisamment bien sauver les gens, en tout cas de les mettre en danger. Et donc pour s'assurer qu'ils sauvent encore moins de gens, les autorités italiennes ont décidé de bloquer le navire afin d'être sûr que les personnes qui auraient pu être secourues ne le soient pas.
Ça, c'est la meilleure. Hein.
Ouais, on a le Sea-Watch 3 qui a été mobilisé le 8 juillet. Alors, l'Italie affirme avoir constaté, je cite, plusieurs irrégularités techniques et opérationnelles lors d'une inspection des gardes-côtes sur le navire de l'ONG allemande Sea-Watch. Cette mesure d'immobilisation se poursuivra jusqu'à ce que les irrégularités détectées soient corrigées. Pour certaines d'entre elles, l'intervention de l'état du pavillon, à savoir l'Allemagne, sera nécessaire. Autrement dit, c'est-à-dire que là, pour être clair, c'est-à-dire que là, l'Italie a trouvé tous les prétextes pour tenter que ces irrégularités, entre guillemets, constatées, soient le plus long possible à être remises en œuvre. Parce que là, s'il faut que l'Allemagne se mouille dans cette histoire-là, autant dire que ça ne va pas être du jour au lendemain. Le Sea-Watch 4 est immobilisé au port sicilien de Palerme depuis le 19 septembre. L'ONG déclare qu'il a fallu 11 heures d'inspection sur le Sea-Watch 4 pour trouver suffisamment d'infractions pour empêcher le bateau de sortir du port. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fallu 11 heures hein, de rechercher. Alors ils ont constaté comme irrégularité un trop grand nombre de gilets de sauvetage.
Oh là là, quel lourd.
Ou encore des lacunes dans le système d'évacuation. Donc voilà, ça fait partie des trucs invoqués. On a l'Open Arms qui est amarré au port de Palerme en Sicile où il subit lui une période de quarantaine. Alors c'est-à-dire qu'en fait tous les trois bateaux dont j'ai cité juste avant, en fait, c'est qu'en plus de du fait qu'ils soient maintenus à port pour des irrégularités entre guillemets, bien sûr, ils avaient été d'abord en quatorzaine à cause de ce virus. Et ben là, du coup, l'Open Arms, lui, il est en quarantaine. L'équipage finit le 2 octobre, pardon, et ils craignent subir le même sort que les bateaux que j'ai cités précédemment. Et a priori, ils vont le subir. L'Alan Kurdi est en quarantaine au port sarde d'Olbia. Donc vous voyez, l'Alan Kurdi, c'était ce bateau qui se dirigeait vers Marseille. Bon, bah, finalement, il est allé dans un port sarde. La période d'isolement de l'équipage devrait prendre fin le 10 octobre. Le navire de l'ONG allemande CIA a terminé le débarquement en Sardaigne de 125 migrants secourus en mer le samedi 26 septembre. Donc bien sûr, et là, comme précédemment, les personnes de l'équipage craignent une immobilisation décrétée par les autorités italiennes. Le Mare Jonio est bloqué au port d'Augusta en Sicile depuis le 24 septembre. Alors que le navire humanitaire était prêt à repartir en mission, les autorités italiennes ont refusé que deux membres d'équipage montent à bord, empêchant ainsi le départ du Mare Jonio. Le but du gouvernement est d'entraver la présence en mer de toute organisation civile qui effectue des missions d'observation, de surveillance et de sauvetage, déplore un membre du collectif italien Méditerranéa qui affrète le navire. Nos avocats travaillent sur des appels contre la réglementation arbitraire et illégitime qui ont affecté le Mare Jonio. Le Louise Michel, lui, est amarré au port espagnol de Buriana et on n'a pas de nouvelles de s'il va reprendre la mer ou pas. Voilà, autant dire qu'il fait pas bon tenter de traverser la Méditerranée en ce moment.
Il faut que ça se sache.
Et on va finir par un petit agenda.
Et oui, très rapidement. Donc, on a déjà rappelé tout à l'heure les dates pour la marche des solidarités à Lyon. Et puis, rapidement, mardi prochain, mardi 6 octobre, à l'Amicale du Futur, soirée de soutien organisée par l'association Tilantia pour financer la production du film Amphiz. Le film fait le récit de 2 ans de lutte d'exilés et d'étudiantes qui ont occupé en 2017 un amphi à l'université Lyon 2. Et après plusieurs semaines d'occupation face aux nouvelles menaces d'expulsion, ils ont réquisitionné un bâtiment à Villeurbanne. Donc c'est un film qui raconte ça et qui a besoin de soutien financier. Donc ils organisent une petite, je ne sais pas quoi, une petite soirée de soutien, certainement pas plus de 10, mardi 6 à l'Amicale du Futur.
Et bien, merci de nous avoir écoutés. Vous retrouverez juste après nous et une petite pause musicale Idées Noires, l'émission de l'UCL. Et ensuite, vous nous retrouverez la semaine prochaine.
Voilà, merci encore.
Bonne semaine.
Merci, bonne semaine.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Belle des radios.